Double Ren.
Double Ren.
Salut, c'est Georges, bienvenue à vous écouter Canal B et c'est Purple Rain qui démarre comme tous les mercredis soirs. On est ensemble jusqu'à 20h pour découvrir un artiste rennais ou plus ou moins rennais. Salut Kat.
Salut.
Et salut Ben, tu as ton propre micro ce soir,
ouais.
C'est incroyable.
Le luxe.
Pour une fois.
C'est toi qui mixe les lives vers 19h20 de nos invités. Et c'est moi qui présente l'invité de ce soir, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Eh bien, c'est parti. Alors celles et ceux qui ont découvert les jeux vidéo avant l'an 2000 vont sans doute ressentir une pointe de nostalgie en découvrant l'univers d'Alexis Lumière, notre invité ce soir. C'est clairement annoncé dans le titre de son dernier EP d'ailleurs, Nostalgic Heart, 6 titres inspirés notamment de la musique 8-bit des premiers jeux vidéo. Alexis Lumière, c'est un voyageur temporel du genre à raviver des musiques un peu oubliées. Un de ses premiers projets, c'était d'ailleurs un groupe de surf. Alors tu te souviens Kat, cette musique née dans les années 50, essentiellement instrumentale, avec beaucoup de guitares électriques et aussi beaucoup de reverb. C'était les Cavaliers en 2008 sur le label Born Bad Records, Squatwer, dans lequel officiait donc Alexis Lumière, notre invité ce soir. Et c'est sans doute pas un hasard s'il partagera la scène après avec La Femme, quelques années plus tard, groupe lui aussi très influencé par la surf music. Comment Alexis Lumière a rangé sa guitare pour se tourner vers les claviers et machines électroniques en tout genre? Peut-être, il nous le dira, sa rencontre avec Forever Pavot, lui aussi signé chez Born Bad Records, a facilité ce virage musical. Forever Pavot, donc un artiste fasciné par les vieux claviers, un chineur d'instruments vieillots et improbables, il en a d'ailleurs fait un documentaire assez fou à voir sur internet gratuitement, ça s'appelle Le Bon Coin Forever. Voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur le CV de notre invité Alexis Lumière, on le reçoit pour le dernier EP donc, qui est sorti le mois dernier, mais aussi pour son passage à venir au Transmusical, et on écoute un extrait du dernier EP. Avec, c'est pas le dernier EP du coup, le titre Le Départ, c'est l'EP précédent. On écoute donc Le Départ d'Alexis Lumière et on se retrouve juste après. We'll be right back. Et bonsoir Alexis Lumière.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici ce soir dans Purple Rain. Alors, par rapport au CV que j'ai déroulé dans l'intro, il y a des choses à rectifier peut-être ou à compléter ou...
Rectifier, non. C'est exact. Après, à compléter, oui, bah, il pourrait y avoir énormément de choses à compléter. Mais non, enfin oui, ça représente en tout cas des étapes clés, on va dire, de ma vie de musicien.
Le virage vers les musiques électroniques et les claviers, les machines, alors est-ce que c'est un peu dû à la rencontre avec Forever Pavot ou pas du tout?
Oui, alors donc je vais appeler par son prénom, Émile.
Oui.
Et donc ça a été une rencontre en effet importante d'une manière générale pour l'inspiration, pour le personnage aussi, parce que c'est quelqu'un qui est pas de la même manière que moi, mais qui est aussi autodidacte en fait. Donc on a chacun sa manière de l'être, mais je respectais beaucoup et j'étais impressionné en fait par cette personne qui jouait beaucoup d'instruments. Qui sortait des disques, où il faisait plein de choses dessus tout seul, avec des références en plus très très à lui, parce qu'en plus quand Forever Pavot a un peu entre guillemets explosé, personne écoutait vraiment de musique de film ou personne diguait encore trop ces trucs là en tout cas il y en a qui le faisaient, c'était des puristes, mais ça y est, tout le monde après un peu a commencé à écouter du Vanier, du Morricone et tout ça, et moi y compris. Donc il y a eu cet aspect-là, et donc lui il est évidemment principalement claviériste, en tout cas sur scène, on le connaît un peu comme ça plutôt, et donc ça m'a mis aussi cette puce à l'oreille, et surtout moi ce qui m'a dirigé vers les claviers et les machines et tout, c'était le fait de pouvoir faire de la musique tout seul et s'enregistrer à la maison, parce que moi j'ai toujours fait des groupes de rock avant,
ouais.
Et donc ça fonctionne uniquement en répète, enfin on compose un peu avec sa guitare chez soi, mais il faut imaginer le reste... Voilà, dans sa tête, et puis en répète après à plusieurs, là on commence un peu à exprimer tout ça. Mais évidemment, voilà, pour s'enregistrer à la maison, composer à la maison, c'était tout un truc moi qui m'intéressait un peu, mais je n'osais pas trop y aller. Et bah voilà, les claviers, les machines, ça permet vraiment ça, quoi. On peut faire tout seul, hein. C'était le principe des instruments électroniques quand c'est arrivé déjà dans les années 60, 70, c'était ça qui était mis en avant, quoi. On peut tout faire avec un synthé, des violons, des trompettes, des batteries.
Voilà, ça sonne un peu différemment, mais c'est ça.
Évidemment, on était encore loin de l'imitation à l'époque. Mais en tout cas, c'est ça, voilà, c'était le déclic, c'est à la fois une volonté en tout cas de m'y mettre tout seul, voir un peu ce que je peux exprimer tout seul par moi-même. Et des rencontres comme Émile, par exemple, voilà, qui lui avait déjà un pied dedans, donc ça m'a aidé aussi à... Voilà, moi, je pense que j'ai besoin de rencontrer à chaque fois quelqu'un qui me met un peu le pied à l'étrier.
Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce style musical? Parce que ce qu'on disait, Georges, c'est qu'avant, tu faisais plutôt justement du surf rock, et là, on passe à un truc qui a complètement rien à voir ouais. Musicalement.
Eh bien, il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas une explication très claire, c'est juste que... À partir du moment où j'ai commencé à pianoter avec un... J'avais acheté un Casio, là, mon premier clavier, c'est un Casio un vintage, un orgue un peu dans l'esprit des années 80. Et ce qui en est sorti au début, c'était des thèmes instrumentaux. Moi, j'ai toujours fait de la musique instrumentale, je ne sais pas chanter du tout. Et donc, je suis lié à la musique instrumentale pour cette raison. Et au tout début, moi, j'ai fait un duo qui s'appelle Cité Lumière avec un copain. Et donc, c'était de la musique instrumentale, très inspirée, un peu science-fiction. Donc voilà, j'avais une base quand même d'inspiration. Et j'ai quand même composé des choses à côté de ce duo, la Cité Lumière. Et tout de suite, ça commençait à ressembler à des petites mélodies là, de Game Boy et tout. Et ça s'est venu très naturellement.
C'est peut-être aussi ce côté musique de film, souvent dans la musique de film. Justement, il y a vraiment des thèmes, des mélodies entre guillemets reconnaissables vu que c'est des instrumentales et qu'il n'y a pas de voix. Et c'est vrai que dans ta musique, il y a un peu ça aussi.
Bah oui, de toute façon, la musique de jeux vidéo, la musique de film, c'est assez lié quand même étroitement. Après, il y a des ambiances, des sonorités qui vont être propres à chacun de ces musiques-là. Mais on est sur une image d'illustration qui doit illustrer des actions, des situations. Donc de toute façon, ouais, c'est très lié. Mais bon, en tout cas, ouais, en fait, en jouant des premières compos, d'ailleurs, mon premier EP en solo qui s'appelle The Casio Stories, qui n'est pas sur les plateformes de stream, alors vous ne l'avez peut-être pas trouvé, il est sur Bandcamp en fait. Et là, on est vraiment dans le thème un peu Game Boy et tout ça, quoi. Et c'est en jouant ces mélodies-là, je me suis dit, mais ah, ça me rappelle des choses. Et c'est comme si c'était un peu déjà dans ma tête, tout ça. Et je me suis mis à réécouter, en fait, les vieux soundtracks de mes jeux d'enfance. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, en fait, voilà, je sais pourquoi je fais ça.
Et tu composes avec quel style de matos ? Parce qu'on, sur les réseaux, on voit des photos, des choses comme ça, on voit que t'as quand même beaucoup plus de matériel que ce que t'as apporté ce soir pour le live. T'as des claviers assez spéciaux. Avec quoi tu composes ?
Alors, le matériel, en fait, c'est intrinsèque un peu avec cette musique, la musique électronique en général. Parce que la musique électronique, ça regroupe énormément de styles de musique, en fait. C'est un prisme, pour moi, plutôt d'ailleurs, plutôt qu'un style. Et donc, moi, j'ai fait le chemin, enfin, j'ai pris le chemin du matériel vintage d'occasion, parce que moi j'ai toujours été un peu fanat d'instruments vintage. Quand je jouais de la guitare, j'ai toujours des guitares chez moi, j'ai des vieilles guitares, j'ai toujours eu des vieilles choses parce que je trouvais que c'était chouette de pouvoir trouver tous ces vieux instruments. Et dans les claviers, j'ai fait pareil, j'ai commencé à m'intéresser aux classiques un peu, qui ont fait cette musique en fait à la fin des années 70 et années 80. Donc j'ai acheté des bons classiques, des Roland Juno, SH-101, s'il y en a qui connaissent ici dans cette pièce ou qui écoutent. Et je compose principalement avec des vieux synthés et avec un clavier en général, juste pour trouver les idées de base. Et après, quand je commence à enregistrer, à faire des arrangements, là je dispatche dans tout ce que j'ai et je vais me dire, ah tiens, bah, pour cet arrangement-là, je sais qu'il me faut ce clavier-là, donc je le ressors, je le branche, etc., etc. Et aujourd'hui, par contre, j'ai un peu évolué dans la modernité, entre guillemets, dans le sens où j'utilise quand même plus aujourd'hui de synthé virtuel sur Ableton, sur logiciel, pour que ça aille un peu plus vite, quoi.
Tu sais combien de synthés t'as, combien d'instruments électroniques
t'as ? Non, en fait, ça peut... Comment dire ? Si je compte que les gros claviers avec des touches, je peux te dire combien à peu près j'en ai, mais le truc c'est que j'ai les synthés qui sont tout petits, sans clavier. Il faudrait que je me rappelle de tout ce que j'ai là. Ouais. J'en ai vendu pas mal aussi récemment. Donc en fait, j'ai un peu réduit. Mais si on compte pas que les claviers avec des touches, je pense que ouais, j'en ai une bonne douzaine.
Donc toi aussi, tu fouilles sur le bon coin pendant des heures, comme Forever Pavo le fait.
Bah, alors, moi personnellement, plus trop maintenant, parce que j'ai quand même accumulé beaucoup de choses en... Les prix aussi ont vachement explosé. Il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai acheté un Juno 6, c'est un gros classique de Roland. Je l'ai acheté dans les 600 balles il y a 6 ans. Aujourd'hui, ça vaut 2000 balles. Donc aujourd'hui, j'irai pas acheter un Juno.
Je crois que Ben, il serait ravi d'en trouver un à 600 euros.
Ah oui, oui.
Et donc aujourd'hui, j'achète plus trop de matériel vintage, en tout cas, ça c'est sûr. Et j'achète des trucs beaucoup moins fun aujourd'hui, quoi. Des claviers MIDI, des contrôleurs MIDI, des trucs comme ça.
Qui me permettent de faire plus de choses, enfin qui sont...
Bah, qui me permettent de pouvoir utiliser plus le logiciel sur lequel je travaille, quoi.
Mais du coup, est-ce que le fait d'utiliser le logiciel, est-ce que t'as pas perdu un petit peu en... Bah justement, c'est pas pareil d'avoir une souris, d'aller chercher des trucs, de jouer, tandis qu'un clavier avec des boutons, enfin, t'as ce côté immédiat en fait, et peut-être un peu plus ludique, j'imagine. À moins que t'as trouvé des techniques pour rendre la chose plus marrante à faire avec Ableton.
Oui, bah, t'as pas tort, évidemment, c'est très ludique d'avoir un clavier devant soi avec des boutons, des réglages qui sont immédiatement. Bon, après, cela dit, quand tu as un clavier MIDI, ça revient quasiment au même. Tu as des boutons sur ton clavier MIDI qui te permettent d'avoir immédiatement accès aux fonctionnalités de ton clavier virtuel. Mais oui, bon, évidemment, c'est très ludique d'avoir un synthé devant toi, solide. Mais après, je pense que c'est des habitudes qu'on a aussi de... Je sais pas si c'est de génération, mais j'imagine que si j'avais, admettons, 16 ans aujourd'hui, que j'avais jamais touché un clavier vintage et que j'avais commencé avec Ableton et un clavier MIDI... Je pense que j'aurais mes réflexes avec ce que j'ai en fait, et ça irait très vite. Après, moi j'aime bien les deux en fait. J'ai fait gaffe de ne pas me perdre dans toutes les possibilités qu'offre un logiciel. Parce qu'un logiciel, ça peut. C'est tellement une porte ouverte à 50 milliards de sons et de fonctionnalités qu'on peut évidemment complètement s'y perdre. Mais vu que j'ai quand même beaucoup d'expérience dans les instruments physiques, j'ai une espèce de balance comme ça où. Parfois, j'ai trouvé des trucs très bien sur Ableton et parfois, j'ai trouvé des trucs très bien sur un clavier standard. Les deux se mélangent, en fait. Voilà. Ouais, jusqu'ici, c'est OK.
J'imagine que c'est un peu la façon dont tu approches le logiciel aussi qui fait que tu te perds plus ou moins. En fait, tu te perds quand tu ne sais pas ce que tu veux faire. Quand tu ouvres le truc, c'est là, ah, tiens, vas-y, je teste des trucs. Et puis là, tu passes une heure, en fait, tu dérives.
Ça m'arrive. Oui, ça m'arrivait cet après-midi.
Tandis que si tu as une idée un peu préconçue, ah oui, là, je veux tel son parce que... voilà,
oui, quoi, non, mais ça peut être un piège. Ça m'arrivait cet après-midi. Depuis quelques jours, d'ailleurs, je ne trouve pas trop d'idées en ce moment, je n'ai pas trop d'inspi. Et je passe du temps à enregistrer des trucs mollement avec Ableton. J'essaye des choses et ça donne pas grand chose. Je supprime après tout ça, quoi.
Ça te servira plus tard, sûrement.
Bah non, mais meuf, j'arrive même pas à fonctionner comme ça. Je supprime.
Non, mais tu le sais pas, peut-être, ça t'a servi. T'as découvert des trucs.
Après, on apprend toujours des choses. Voilà, ça, par contre, c'est clair et net. Ableton, par exemple, je fais pas de la pub, hein, mais on dirait. Mais il y a tellement de possibilités qu'en fait, même quand tu fais rien, enfin, même quand tu galères à faire un morceau, tu découvres toujours un petit truc, un petit raccourci sur ton clavier ou un petit truc comme ça. C'est une façon de relativiser aussi, dire que t'as pas trop perdu ton temps.
On va écouter Peter Collagen, c'est un artiste que tu as choisi, Alexis Lumière, et le titre c'est I Think Therefore I Am, je chante donc je suis. Pourquoi tu as choisi cet artiste?
Alors j'ai choisi cet artiste parce que c'est quelqu'un, alors c'est assez mystérieux, je peux pas trop en dire de cet artiste, trop parler. Mais je sais que c'est quelqu'un, ça vient de quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré en tournée. Et donc il y a un certain concept autour de cette musique. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la personne qui chante n'est pas humaine. C'est réalisé avec un logiciel japonais de Yamaha qui s'appelle Vocaloid, qui permet en fait de créer des lignes de chant, d'écrire des paroles et de les faire chanter par un chanteur ou une chanteuse virtuelle.
Et ça date de quand, ça, cette invention?
C'est pas récent. Enfin, il y a une version très récente, oui. Vocaloid, je ne sais plus combien, mais il faudrait vérifier, mais ça a peut-être 10 ans, 15 ans.
Ah, quand même, ok.
Les prémices, je ne sais plus, il faut vérifier tout ça. Mais, donc on a affaire, et il existe au Japon d'ailleurs des stars virtuelles de chez Vocaloid.
D'accord, mais qu'on pourra jamais rencontrer en vrai, quoi, finalement.
Exactement.
On pourra pas.
Mais il y a quand même des humains derrière qui paramètrent.
Il y a des humains derrière qui créent la musique et le chant, enfin le texte plutôt, et la mélodie. Mais c'est chanté par des êtres virtuels. Il y a des concerts, je crois, d'ailleurs.
Première version, d'après Wikipédia, 2004. Donc, ça a 20 ans. Vache. Mais tu connais les gens derrière le projet Peter Collagen?
Oui.
D'accord, ok. On n'en saura pas plus,
mais
on va écouter.
Il y a des vrais gens derrière.
C'est comme ça qu'on crée une légende.
On écoute donc Peter Collagen et on se retrouve juste après pour le live de notre invité ce soir dans Purple Rain, Alexis Lumière. À tout de suite. Love you. Et notre invité ce soir, c'est Alexis Lumière, qui vient nous interpréter 5 titres, ouais, on est gâtés, dont la plupart issus de son dernier EP, il est sorti le mois dernier. Alexis Lumière, qu'on pourra voir sur scène au Transmusical dans quelques semaines, quand tu veux. Merci beaucoup Alexis Lumière pour ces 5 titres en direct à la radio, c'est sportif quand même. Hein.
T'as eu même assis.
Ouais, la vache.
Dont un titre complètement inédit qui n'a même pas encore de nom, le tout premier titre.
C'est un morceau que j'avais, que je devais faire avec un copain. Je devais faire un EP avec un copain qui s'appelle Mathis, et un artiste, musicien. Son nom d'artiste c'est Ray Jane. C'est génialissime si vous l'écoutez. Et ça en gros, ça n'a jamais eu lieu. Okay. Cette EP qu'on voulait faire ensemble. Donc j'ai repris quelques morceaux, quelques thèmes que j'ai réutilisés.
Ça va foutre le feu à la Green Room le vendredi 6 décembre.
Si tout se passe bien.
Dans le cadre des transmusicales.
Si mon plan secret se passe bien, oui.
Ah, le plan secret pour les transmusicales.
Non, c'est pour donner une petite aura de mystère. Mais non.
Et comment tu le prépares, cette date qui est quand même assez importante? Comment tu la prépares? Tu as fait des résidences et comment tu te sens aujourd'hui, à quelques semaines de ce live?
Eh bien, je le prépare depuis cet été. En fait, j'ai appris que j'étais programmé au mois de juin, je crois. Et donc, depuis juin, dans ma tête, c'est un peu le grand 8. Et donc, j'ai passé l'été dessus, quoi. En gros, j'avais un setup avant en live avec des machines, etc., divers et variés. Et depuis qu'il y a eu l'annonce des trans, je me suis dit qu'il fallait que je change. Enfin, pour résumer vraiment rapidement, avant, j'étais un peu tributaire des machines que j'avais en live. J'étais un peu limité. Et donc, j'ai pris la décision de passer à un ordinateur sur scène. Donc, maintenant, j'ai un ordi. Et pour pouvoir faire un live un peu plus scénarisé, avec une trame qui ne s'arrête jamais, avec un début, une fin vraiment établie, etc. Et plus besoin de faire de stopper entre les morceaux. Là. Donc, non, j'ai un truc plus complet comme ça. J'ai changé de matériel un peu sur scène. J'ai un petit système modulaire maintenant qui remplace plusieurs machines que j'avais avant aussi, etc., etc. Et donc grâce à cet accompagnement que j'ai, transmusical, antipode, jardin moderne, j'ai pu faire des résidences et travailler avec un ingé son, chose que je ne faisais pas avant. Et donc j'ai quelqu'un avec moi pour le son maintenant, qui s'appelle Lucas, donc je le salue à l'occasion. Et donc voilà, ça me permet de travailler tout ça comme il faut.
Donc là, ça va être un set un peu autoroute pour...
Oui. C'est ça. En fait, moi,
la Green Room.
Ouais. Alors le truc, voilà, c'est qu'en fait, tu me demandais comment je me sentais par rapport à ça. C'est divers. C'est plein d'émotions diverses et variées. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis hyper excité. Bon, c'est un peu l'émotion générale. C'est que je suis hyper excité par cette date. Mais il y a plein d'émotions qui vont aussi se présenter, comme par exemple le flip, l'impression que ce que je fais, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, on me raconte tellement de choses sur les trans. Ah, la Green Room, tu vas voir, c'est génial, c'est le club. Tout le monde est chaud là-bas.
En tant que spectateur, t'es pas.
Non, j'ai jamais fait les trans.
Donc, du coup, tu fantasmes le truc encore plus, c'est ça?
Il y a un peu cette idée-là, ouais. C'est que moi, je me suis jamais posé de questions avant sur les concerts. J'ai toujours fait ma musique et allez, je fais mon set comme d'hab et ça plaît, tant mieux, tu vois. Et donc là, il y a un truc un peu, voilà, pour une fois, c'est la première fois où je me dis que je fais les choses en fonction d'un concert. Donc voilà, je passe par plein d'émotions différentes, parfois un peu mauvaises, parfois un peu bonnes, et ça s'équilibre un peu, tu vois. Mais
parce que qu'est-ce qu'on t'a dit sur les trans, à part la Green Room, tu vas voir, c'est le feu.
Bah principalement la Green Room, donc oui. Donc le feu, les gens sont un peu... j'ai l'impression que j'ai avoir affaire à une horde de... tu sais,
de
ravers, un peu, qui ont envie d'avoir du kick, du BPM et tout. Alors je me suis dit, oh là, faut que je fasse un set un peu club avec tous les morceaux qui s'enchaînent. Oh. Je me suis mis un peu ce truc-là. Que je regrette pas parce que finalement ça me permet de faire un set qui change et très dynamique. Mais par contre, moi c'est évident que je fais pas de la musique de club à l'origine du tout. C'est-à-dire que ce que je fais c'est rythmé, ça peut être rapide, mes derniers morceaux sont plutôt même rapides. Donc ça peut s'apparenter à ce genre de musique, mais je suis pas dans un délire club du tout. Moi au début je suis pas DJ, je suis même pas quelqu'un qui danse vraiment dans les soirées. Donc ce qui fait que j'adapte une espèce de... J'adapte un univers qui est le mien à un univers qui n'est pas le mien. Et bon, ça sera un mélange des deux. Après, je ne fais pas la musique de club, encore une fois, purement et simplement, quoi. Mais bon, voilà, j'imagine qu'il y aurait un truc qui peut happer un peu les gens. J'avais joué au Maintenant Festival il y a 3 ans, à la nuit électro à l'Antipode, et ça avait marché à minuit, alors que je faisais des trucs encore moins rapides qu'aujourd'hui. Donc, bon, voilà.
Tu vas faire quelques dates un peu différentes aussi avant. Tu vas faire les Conova, tu vas faire la bibliothèque de Villejean, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc des dates qui vont peut-être un petit peu être complètement différentes, j'imagine. Enfin,
oui, bah, les Conova, on est dans une disposition scénique assez classique, une grande scène, etc.
Mais plutôt dans la soirée.
Ouais, parce que les Conova, même si je joue en dernier sur cette date, ça va quand même être assez raisonnable. Hein. Ça va être du 22h, je pense, 22h30. Oui. Et Bibliothèque de Villejean, évidemment, on est sur une ambiance studieuse, avec des élèves de musicaux qui vont venir, que j'ai déjà rencontrés, qui sont très gentils. D'ailleurs, c'est assez cool d'être étudié par quelqu'un, c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça avec les trans en musicaux. De lier un artiste avec les musicaux. Donc ils vont faire une étude, un exposé, je crois, sur ma musique ou un truc comme ça.
Intéressant.
Tu seras invité à voir l'exposé.
Oui, je suis invité à l'écoute. Ouais. Mais c'est public. D'ailleurs, c'est public. C'est le 12 novembre.
Ok. À la
bibliothèque de Villejean, pareil.
Ah oui, ok.
C'est public. Il y a une écoute de ma musique avec les élèves. Et le concert, c'est le 27 novembre. Et les Conova, c'est le 22 novembre.
Beaucoup, beaucoup d'actualités à venir.
Et oui, tout ça à Rennes, enfin, sauf les Conova, mais en tout cas, tout ça pas très loin chez moi.
Et oui, pratique. Rennes, c'est chez toi depuis 2020, c'est ça?
Depuis
peu près.
2000, ouais, tout début 2020, ouais.
Et tu fais partie de ces gens qui ont dit « Oh, le Covid, vas-y, je me barre, je vais... » ça n'a rien à voir avec le Covid.
Ça aurait pu, mais je suis arrivé avant.
Ah, juste avant, d'accord, okay.
Ça marche pas.
Ça marche pas. Ou alors j'étais au courant secrètement et je suis venu avant, mais non. J'étais Laura pas dans les petits papiers de.
Laura de mystère encore. Ouais. Et pourquoi t'as choisi Rennes pour changer de.
Bah, dans les très grandes lignes, ça fait un peu cliché, mais j'ai vraiment eu une espèce de révélation. Alors je suis pas venu seul, je suis venu avec Lisa, ma compagne, hein, depuis longtemps. Et Lisa qui a déjà vécu ici, qui est d'origine bretonne.
Ah oui, donc ça aide
ce
aussi.
Ce qui n'est pas mon cas, ça aide, mais finalement, en fait, c'est pas venu d'elle du tout. C'est qu'on est venu un week-end à Rennes courant 2019 et chez des amis de Lisa, enfin qui sont aussi des amis à moi, mais des amis d'enfance, de jeunesse de Lisa. Et on est venu un week-end, il faisait très beau, en mois de mars, je me rappelle toujours. Un super mois de mars, très beau, un week-end, avec toute l'ambiance qu'on a le week-end à Rennes en ville, finalement, avec le marché. Délice, avec beaucoup de gens qui sortent, un peu en ébullition comme ça. Et je sais pas, moi ça m'a tout de suite. Waouh! Pourtant je connaissais Rennes un peu, moi j'ai joué à Rennes plusieurs fois avant.
Bah ouais.
J'ai joué au 1929, donc qui n'existe plus évidemment. J'ai joué au Mondo Bizarro, j'ai joué au Barrique. Donc, j'avais une image de Rennes où j'étais pas hyper attiré parce que c'était très 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 festif. J'ai joué vraiment dans le centre, le 29 c'était dans le cœur du réacteur quoi, donc
trop festif du coup.
Le terme festif c'est peut-être un peu c'est pas forcément le bon, c'est que quand je sortais des salles où je jouais, excepté le Mondo qui était excentré, je voyais que des gens dans le caniveau, des pompiers qui arrivaient, les flics et tout. J'étais là, attends, ce qui se passe ici,
c'est intense
et tout. Je me voyais pas, ça correspondait pas tu vois, à ma personnalité, mais bon, voilà, quand je suis venu le week-end là, en question, dont je parlais en 2019, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressentais pas avant dans cette ville. Et le déclic est tout de suite, assez créé tout de suite. Quoi. C'est-à-dire qu'on a emménagé finalement pas si longtemps après.
Il y a des lieux un peu emblématiques pour toi à Rennes où tu as un QG pour voir des concerts ou
Je ne pense pas avoir un. Comment dire. Non, j'ai pas un QG. Si j'avais vécu peut-être plus jeune à Rennes, plus longtemps, j'aurais eu peut-être des habitudes comme ça. Après, moi j'adore tout ce qui se passe dans la ville en entier. En fait, c'est un peu dur parce que chaque endroit a un peu sa spécialité. Donc parfois on aime bien être à l'Ubu, parfois on aime bien être au Marquis de Sade.
Selon l'humeur.
Ouais, l'humeur ou je sais pas, le mood qu'il y aura ce soir-là. Quoi. L'Antipode, je trouve ça super ce qu'ils ont fait dans cette nouvelle salle. Voilà, je trouve qu'il y a que des lieux incroyables à Rennes pour sortir. Les programmations sont géniales, il y a beaucoup beaucoup d'assauts.
Et du coup, tu vas découvrir les trans en tant qu'artiste, si je comprends bien.
Bah ouais, c'est ça.
C'est dingue ça.
Quelle première fois.
Ça fait un peu cliché, mais j'avais dit. Ah non, j'irai pas aux trans tant que j'y jouerai pas.
Et bah tu vois, t'as réussi.
Non, mais c'était un peu cliché pour rigoler, comme dans un film, tu vois, mais en fait, c'est ce qui s'est passé.
Et au niveau actualité aussi, il y a ton label, musique.exe, que tu as monté pour la sortie de cette EP
Oui.
En gros.
Oui, c'est ça le déclencheur, ouais. Mon dernier EP en date, donc Nostalgic Hearts, qui est sorti il y a pas longtemps, comme vous le citiez tout à l'heure, en fait, j'ai trouvé aucun label. J'ai galéré beaucoup, pourtant, j'ai toujours trouvé des labels avant. J'en ai plusieurs entre ce qui est sur Bandcamp et sur les plateformes de stream. Il y a au moins 4-5 labels différents. Mais pour cet EP là, j'ai trouvé absolument personne. Entre des labels qui sont plus tournés vers de la pop, ce que j'ai proposé aussi avec Nostalgic Heart, c'est un peu plus rapide, c'est un peu plus frénétique comme musique. Donc ça plaisait pas forcément à des labels qui m'avaient sorti des trucs avant, qui étaient plus calmes. Donc voilà, fallait agir. J'ai créé mon label.
C'est un label qui est voué à avoir une esthétique musicale particulière, la video game musique, des choses comme
ouais,
ça.
Ouais, j'ai envie
que ça... d'autres sorties de
oui, c'est ça. J'ai envie que ça soit le cas, mais d'un côté, j'ai pas envie de fermer trop de portes. C'est-à-dire ouais. que, oui, d'ailleurs, le nom c2.anti/musique.exe, alors là, on est sur MS-DOS.
Ah, c'est vrai que j'avais pas vu le C2.
Ouais. Hein. Et anti-slash, qui est dur à faire au clavier en plus.
C'est vrai, c'est vrai.
Et. Donc c'est en hommage évidemment à MS-DOS, Windows dans les années 90 que j'ai connu, où il y avait des jeux qu'il fallait installer sous MS-DOS, il fallait taper des lignes de code, c'était tout un truc. Donc c'est 2.etc, musique.exe, c'est donc dans cette ambiance-là, un peu geek, un peu jeu vidéo évidemment, mais de près ou de loin. C'est-à-dire que là j'ai déjà des artistes en vue, j'ai déjà 3 sorties en fait à venir.
Ok. Ouais,
j'en dirai pas beaucoup plus. Parce que tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Je suis plus dans ce truc-là. J'ai pas envie de dire des choses comme ça. Et si ça se fait pas, c'est un peu dommage. Mais en gros, dans les 3 artistes que je propose, ça représente pas mal le label en fait. Il y a un artiste qui va vraiment faire un truc très Mega Drive, un soundtrack fictif, comme à l'époque, sur Sega. Et de l'autre côté, je vais avoir un artiste qui va être plus chanté, mais qui a un lien quand même avec les jeux vidéo. J'aurai l'occasion d'en parler plus tard. Mais qui, quand on écoute, on se dit pas du tout c'est de la musique de jeux vidéo. Donc voilà, il y a un peu cette ambiance-là.
À surveiller.
À surveiller, ben oui, ouais. Carrément. L'émission touche déjà à sa fin, c'est passé très très vite.
Ouais,
mais voilà, c'est ce qui se passe quand on est bien accompagné. Merci Alexis Lumière d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué à la radio en direct.
Merci à toi.
Bah merci de m'avoir invité également.
Et est-ce que tu sais l'horaire de passage à la Green Room?
Ouais, c'est 23h.
Ah oui, 23h.
J'ouvre la Green Room en fait.
D'accord.
Okay.
Voilà. Et ce sera le vendredi 6 décembre. Et d'ici là, on peut te voir donc à Rennes, à la bibliothèque de Villejean, dans une autre ambiance le 27 novembre.
Le 27, c'est ça.
Ouais, et si on veut même en savoir plus sur ta musique, les étudiants musicaux font un exposé.
Ça y ressemblera, je pense.
Ils en parlent en tout cas le 12 novembre à la bibliothèque de Villejean également.
Absolument.
Tu vas avoir plein de révélations sur ta musique. Et tout.
Tu vas apprendre des trucs sur toi-même.
Tu vas apprendre des choses de fou.
J'espère que je vais être agréablement surpris.
2-3 idées sorties avant de se quitter. 4 peut-être.
Eh bien, ce jeudi, au Ponant, à Passé, il y a le rock Passé Ciseaux. Donc, voilà, soirée plutôt... En fait, c'est une soirée rock et Johnny, on va dire, mais pas le Johnny auquel on pense. Il y a Johnny Montreuil, Johnny Carwash et Johnny Mafia, 3 groupes plutôt cool. Et je me dis que c'est bizarre que personne d'autre ne l'ait fait avant eux, d'ailleurs.
Johnny Puissance 3.
Voilà, Johnny Puissance 3. Ce jeudi,
pardon. Il y aura
peut-être
un sosie de Johnny dans le public, on ne sait jamais.
J'espère pas.
Sur un malentendu.
Non,
il y a bien des
pas.
Gens qui viennent voir Happy Mondays le lundi à l'Ubu. Donc,
c'est vrai.
Ouais, je suis bien deg, merci.
De mon côté, j'ai noté qu'il y avait les vieux rockers californiens Lords of Altamont demain jeudi au Musicam à La Misière.
C'est assez drôle quand même, parce que le Musicam, c'est un peu le temple du karaoké. Quoi. C'est assez drôle de voir un groupe de bikers faire du gros garage.
C'est fou. Il y a aussi, pour aller un peu plus loin, la soirée rock sur Meux, à Montfort-sur-Meux. Voilà, on encourage la scène, enfin les initiatives un peu excentrées de Rennes aussi, c'est important. Et puis ce vendredi, l'after Rituel au Melody Maker avec deux groupes que je ne connais pas, mais je fais entièrement confiance à Rituel pour nous programmer des trucs
super.
Voilà, on se quitte là-dessus. D'autres idées sorties peut-être? Non, c'est bon. On se quitte avec un dernier titre de Alexis Lumière. On va peut-être pas l'écouter en entier du coup, mais c'est pas grave. Where Memories Stay Forever, c'est celui qui clôt le dernier EP d'Alexis Lumière. Nous, la semaine prochaine, on est en vacances.
Exactement.
On se retrouve dans 15 jours, hein, si tout va bien.
Avec Johan Minkoff.
Avec Johan Minkoff.
À cette date-là, on a sorti son nouvel album. Donc voilà, on va en parler.
Trop bien. Eh ben, à dans 15 jours. Merci de nous avoir écoutés. Salut.
Salut.
Salut.